de la sono uscito, che devo tutto a disposizione, tutto a voi, che sappiamo tutto, non vediamo l'ora, che sappiamo tutto bene, per me, perché dobbiamo aspettare che passa la sintesi finale, per poi sentirsi dagli altri, quello che hanno detto chi è di fronte agli altri, i revisori dei conti che sono stati messi da dei ministeri, Tesoro e Maria, chi è venuto chi è.
Le fondement du fonctionnement de la compagnie, c'est l'autogestion. Ces hommes exercent le seul et unique pouvoir, celui de l'Assemblée Générale, qui élit directement à bulletin secret ses conseillers et son consul, le premier de ses dirigeants. Ils n'ont pas de patron, organisent eux-mêmes leur travail comme ils l'entendent et savent le faire. Ils sont des professionnels et réputés pour leur savoir-faire dans leur métier. Il est arrivé parfois que des cargos, mal chargés ailleurs, viennent à Gênes pour être déchargé et rechargé par les dockers du port. L'autogestion les rend chacun à la fois individuellement responsables et collectivement. Leur consul, en ce moment, s'appelle Paris des Batignes.
D'où viens-tu? D'un quartier populaire. Ta famille? Ma famille aussi. Mon père était anarchiste. Il menait donc une vie un peu rebelle. Ta mère? Elle partageait ses idées. Mais elle avait souvent des soucis. Elle a payé plus cher que lui. Lui, il avait l'organisation. Elle subissait les effets négatifs, comme toutes les femmes. La période du fascisme était très dure. Ton enfance? Je suis très peu allé à l'école. 2 ans seulement. Et puis j'ai travaillé comme coursier. J'ai fait tous les métiers. Tu as un bon souvenir du travail au port? C'était dur? Très dur. Si j'avais été hors du port, sans l'organisation de la compagnie, je ne serais peut-être pas resté. Sans y être forcé. Pourtant, ce travail dur, malsain, est devenu une chose exceptionnelle grâce à l'organisation et l'autogestion. Ensuite, c'était une façon de vivre. C'était dur sur beaucoup de plans. Avant d'être engagé, ou appelé pour la première fois, tu as passé des mois à te proposer à la Chiamata. Raconte-moi ça. Pour devenir membre associé, j'ai mis 17 ans et demi. Ce n'était pas vraiment un apprentissage. Et les premières années, on avait beaucoup allé à la Chiamata. On avait beau aller à la Chiamata, 1 ou 2, 3 fois par jour. Je n'ai travaillé qu'un jour en 7 mois. 3 ou 4 jours dans l'année, tout en allant à la Chiamata. J'aurais dépensé moins à la fac. Je travaillais ailleurs pour avoir de l'argent. Qui m'aurait entretenu? C'était impossible. C'était peut-être une illusion. Mais on pouvait s'exprimer, même politiquement. Pour cette raison, je me sentais plus à l'aise ici qu'ailleurs. On se sentait libre et on participait. Avec l'autogestion, tu te dis que le travail est à toi. Tu le gères toi-même. Cette conviction te pousse à donner beaucoup plus de toi-même. C'est peut-être faux, mais tu as cette conviction. Cette conviction s'intensifie tous les jours. Être de cœur, ce n'est pas qu'un travail. À la Chiamata, ça discute entre copains. Il y a aussi des retraités. Être de cœur, selon nous, c'est aussi une façon de vivre. Tu te sens lié à la compagnie à vie. Récemment, ça n'a pas dû être facile de préserver votre union. Vu ce qui se passe au port, comment avez-vous fait? Notre force, c'est l'union. Elle ne nous a jamais quittés, même pendant l'après-guerre, quand la compagnie a réuni toutes les sections de Dockers. Elle a lutté pour ce port, l'a relancé après la guerre. Nous élisons nos dirigeants et notre consul. Nous choisissons qui nous commande. Ça, c'est très important. Si ça se passe mal, ils redeviennent Dockers. Il n'y a pas plus démocratique.
À la fin des années 60 commence la révolution technologique qui va bouleverser, au fil des années, tout le transport maritime et le travail des ports. C'est l'arrivée du conteneur. Les marchandises sont dès lors transportées dans des caisses de dimensions standards de 10 ou 20 tonnes. Les navires se transforment et les engins du port également. La marchandise devient complètement anonyme. Elle, qui racontait par sa nature ses formes, ses odeurs, l'histoire matérielle des pays lointains, peuplant les quais et les entrepôts du port, elle n'a maintenant plus de visage. On ne sait pas ce que ces caisses contiennent. Le travail aussi se transforme. Ce qui se comptait en jours de chargement et de déchargement se compte maintenant en heures. Là où 80 hommes s'affairaient autour d'un navire et dans ses cales, une douzaine suffit aujourd'hui. Les équipes se désagrègent car on ne communique presque plus directement entre les hommes. On se parle par walkie-talkie, à distance et dans le bruit des machines et du choc métallique des caisses. Ils ne sont pas toujours compris. On dit qu'ils sont privilégiés, trop bien payés, orgueilleux, grande gueule, qu'ils n'en font qu'à leur tête. Ils sont attachés à des formules de travail qui appartiennent au passé. On ne dit pas, mais on le pense probablement, qu'il n'est pas bon d'associer l'intelligence avec la vie ouvrière.
En même temps, le Docker est apprécié pour ses actions dans la ville, Lors des catastrophes naturelles, telles que des inondations, à Gênes et ailleurs, l'inondation à Vajon, par exemple, les dockers ont fait des merveilles. Un barrage s'est écroulé. Oui, une catastrophe énorme. Qu'avez-vous fait? Nous sommes intervenus immédiatement. Là-bas, on est considéré comme les dockers. Ont même supplanté les pompiers. Ils ont risqué leur vie dans les ruines pour sauver les légumes, les céréales ou ceux qui restaient aux gens. Vous y êtes allés avec des crochets, avec le cœur surtout. Et en ville, la même chose. Ensuite, pour aider les travailleurs exclus du processus de production, pour les chômeurs et les associations, le docker vit en contact avec l'organisation sociale.
Au mois de juin 1960, le parti néofasciste veut tenir son congrès à Gênes, ville martyre de la résistance. La ville connaîtra alors une véritable insurrection. 100 000 grévistes occupent les rues et les places et tiennent tête pendant 3 jours à la police et à l'armée. Cet événement, connu sous le nom de la révolte des maillots rayés que les jeunes portaient à l'époque, entraînera la chute du gouvernement. Les dockers, bien entendu, participaient tous à cette révolte.
Pour en arriver là, vous vous êtes battu autant contre les communistes que contre les patrons du capitalisme. Ça me paraît intéressant. En fait, nous avons dû nous battre contre tout le monde. Comme nous refusons d'être manipulés, le fait d'avoir les mêmes idées n'empêche pas les problèmes.
Noi siamo disposti a pagare questo prezzo a condizione ci lasciano il nostro sistema di autogestione. Quindi la nostra società,
dans la nouvelle société,
che ogni socio,
chacun apporte son travail et le capital c'est son travail.
Non posso mettere una.
C'est la seule solution.
Viene uno capotente.
En tant que SA, nous serions vulnérables.
Con questo sistema non si può. Il lavoro di
tutti. Le travail est le capital indivisibile. Et le besoin de produire me convient. Je ne vis pas sous une cloche de verre. Mais certains excès ne sont pas du tout convaincants. Si le travail est si important, pourquoi ce stress? Cette angoisse et cette course? Qui en profite? Le travail devrait être plus humain. On n'est pas contre la productivité. On connaît les règles du jeu, mais elles sont poussées à l'extrême. Le libéralisme est un grand mal. On s'en rendra compte avec le temps. On ne peut pas l'éviter. Cela marque un homme qui devient l'esclave du système plutôt qu'un homme libre. C'est une chose grave.
Quindi è una cosa che non è di poco conto questa. Non essere un pochino più veloci o un po' meno veloci. Sono concetti.
Il s'agit d'une conception de la vie que l'on a ou pas.
Il y a une cinquantaine d'années, en unifiant tous les métiers du port, ces hommes se sont donnés à eux-mêmes le pouvoir d'organiser leur collectivité, de conquérir ainsi la maîtrise de leur travail et de leur vie, au sein d'un système où le travail n'est plus soumis aux autres pouvoirs, mais est leur partenaire. Leur force, c'est leur unité et leur professionnalisme. Ils ont eu 1000 problèmes, ils en ont toujours. Ils ont lutté avec détermination, se sont mis en grève, bloqué les bassins du port quand il le fallait. Ils furent de tous les combats politiques et syndicaux. C'est la solidarité à l'intérieur de la compagnie qui les a poussés à être aussi solidaires des autres. Ils sont partis spontanément au secours des victimes des grandes catastrophes, tremblements de terre au sud du pays ou inondations au nord. Ils ont refusé de décharger des navires qui transportaient des armes, ont envoyé des tonnes de médicaments au Vietnam pendant la guerre. Pour eux, le travail n'est pas une servitude, mais doit être vécu au travers d'un tissu de relations et de responsabilités librement assumées. C'est aussi ce qu'on appelle une culture. Les hommes du port de Gênes ont une culture à eux. Le port a une culture. J'avais mis ici un pied dans le travail, tout en gardant l'autre dans mes rêves. Cette expérience m'avait marqué pour toujours. Chaque expérience personnelle, quelle qu'elle soit, n'appartient qu'à vous, et elle est inaliénable.
Alors, vous venez d'entendre un extrait, enfin différents extraits du film de Alain Tanner, Les Hommes du Port, qui a été fait en 1995. C'est donc un film qui m'a bien évidemment beaucoup touchée et qui, je trouve, nous apprend des choses assez importantes sur le pouvoir en fait d'un groupe et d'idéaux et l'envie de créer quelque chose qui est à soi en fait. Et que, enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai vraiment trouvé cette. L'expérience de ce film assez, assez importante, et j'ai demandé depuis à Léonique et à Jeanne si les hommes du port, la compagnie en fait, existait toujours, et elle m'a dit que non. Du coup, j'ai pas vraiment voulu en savoir plus, et j'ai préféré, parce que j'imagine assez bien les événements sociaux et économiques et politiques qui ont fait que cette compagnie n'existe plus. Du coup, je voulais plutôt m'intéresser à ce qui existe. Et du coup, j'ai préparé un enregistrement d'un article que j'ai découvert sur un site qui s'appelle Écologie sociale. Cet article a été écrit le 3 janvier 2017 et il s'intitule « Les idéaux de Bookchin fleurissent au Rojava ». J'ai essayé de résumer un peu cet article, je me suis permise de couper certains bouts, parce qu'il y avait des passages historiques, assez complexes, et du coup, je pense que ça vaut la peine de relire après cette lecture, soit l'article en entier, soit alors je posterai en fait, comme d'habitude, sur Facebook et sur la page web, d'autres articles qui permettent en fait de mieux comprendre... Je vais passer l'enregistrement et je reprendrai le micro juste après.
Les idéaux de Bookchin fleurissent au Rojava. 3 janvier 2017. Il y a quelques années encore, presque personne n'aurait pu situer le Rojava sur une carte. Les questions géopolitiques du Moyen-Orient transmises par les médias occidentaux se concentraient pour l'ensemble au conflit israélo-palestinien et ses dérivés. Mais depuis l'invasion de l'Irak par les États-Unis et leurs alliés en 2003, puis les printemps arabes des fins 2010, la région est secouée par de nombreux tremblements. Dans la foulée, des révolutions en Tunisie et en Égypte, la Syrie s'est embrasée. Et elle brûle toujours. L'écroulement d'un pays, la guerre avec ses milliers de morts et ses millions de déportés, ne sont pas des événements dont on peut se réjouir. Mais de tels bouleversements comportent aussi en eux les possibilités d'une reconstruction sur d'autres bases. Que l'on espère meilleur. Et c'est à ce titre que l'on a commencé à s'intéresser à la province syrienne kurde du Rojava. En 2012, alors que la guerre civile faisait rage en Syrie, les autorités syriennes officielles se sont retirées de cette province du nord du pays. Le gouvernement, mis en difficulté par les rebelles syriens, a fait le choix de ne pas se créer un ennemi supplémentaire et a placé devant un ultimatum, Le gouvernement mis en difficulté par les rebelles syriens a fait le choix de ne pas se créer un ennemi supplémentaire et, placé devant un ultimatum, a laissé champ libre aux Kurdes, au plus précisément au PYD, le parti de l'Union démocratique kurde, qui demeure le groupe le plus influent sur place. Il y a convergence d'intérêts. Les Kurdes, qui représentent 10 à 14% de la population syrienne, revendiquent l'autodétermination. Ils protègent leur territoire et n'ont guère de raison de se rallier à des rebelles qui ne défendent pas leur cause. Leur but est ailleurs, la réalisation d'un gouvernement libre et autonome. À ce titre, les Kurdes créent de nouvelles autorités locales officielles dans la province du Rojava, posant les premières pierres de la construction d'une forme de société. Le confédéralisme démocratique. Au-delà de la revendication d'autonomie, la particularité du projet politique kurde est de n'avoir pas cherché à créer un État-nation kurde, ce qui avait été la revendication du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan et proche parent turc du PYD, durant ses premières décennies d'existence. Le nouveau paradigme politique dont il se revendique se nomme « confédéralisme démocratique ». Le confédéralisme démocratique n'est pas un État, mais un système démocratique populaire dans lequel chaque partie de la population, à commencer par les femmes et les jeunes, possède au niveau local sa propre organisation démocratique qui lui permet de participer directement à la vie politique des assemblées en tant que citoyens libres et égaux de la Confédération. Par conséquent, prenant essence dans le peuple, sa réussite repose sur l'autogestion et autosuffisance, y compris d'un point de vue économique. Le confédéralisme démocratique, élaboré par les Kurdes, consiste en la création de conseils et d'assemblées démocratiques locales, fédérées entre elles, fonctionnant en démocratie directe et à différents niveaux. D'un côté, des conseils thématiques sur l'écologie, les femmes, l'économie, la loi, la langue kurde, etc., avec des réunions hebdomadaires, et de l'autre, des assemblées liées au lieu de vie, comme les conseils de rue, de quartier, de communes, de cantons. À travers eux, on vise à libérer et à démocratiser la société entière et non à créer une nouvelle administration publique chargée de la gestion des affaires politiques. Le système, décentralisé, ne se fonde pas non plus sur une identité culturelle kurde, mais se veut ouvert à toutes les populations et minorités, religieuses, ethniques, etc., présentes dans la région. De fait, sur le papier, sa vocation non homogène en fait sans doute un des rares modèles politiques capables de les rassembler de manière non conflictuelle, en donnant une juste place et une liberté d'expression à tout un chacun. Une révolution sociale. Concrètement, des communes ont été créées progressivement un peu partout sur le territoire kurde de Syrie, comme unité de base de la nouvelle politique. Leur rôle consiste à diriger leurs travaux avec la participation directe des villages et des quartiers. La commune est le lieu où le citoyen s'organise, crée sa propre volonté, innove une politique efficace. Elle laisse la porte ouverte pour discuter toutes les questions et d'en trouver des solutions. Si on manque de recul et d'accès aux informations sur place pour comprendre dans le détail le fonctionnement de ces institutions, avec, outre le conflit armé, tous les problèmes de la barrière de la langue, on se rend bien compte qu'on se trouve en face d'une révolution politique et sociale très progressiste. Les confédéralismes démocratiques s'opposent à l'État-nation. Le confédéralisme démocratique s'oppose à l'État-nation aussi bien qu'au capitalisme et au patriarcat. La lutte contre le sexisme se retrouve au premier plan du projet de libération de la société, où les femmes sont à juste titre vues comme une autre forme de nation à libérer de l'exploitation. Par l'instauration de quotas, la présence généralisée d'une codirection, homme-femme, des conseils et comités, la création de conseils de médiation pour traiter les cas de violences domestiques, les femmes trouvent une place prépondérante et le patriarcat se voit confronté frontalement. Première cible de l'État islamique, elles formeront également des milices entièrement féminines, les YPJ, les unités de protection de la femme, pour se défendre et défendre leurs terres et leurs familles. Au même titre que leurs comparses masculins, des brigades YPG, les unités de protection du peuple. Les modèles de démocratie directe et directement liés à la vie quotidienne développée par les Kurdes du Rojava rappellent quelques exemples historiques connus, notamment celui des sections parisiennes de 1793 et de la Commune de Paris. Mais si ce modèle politique ressurgit au Kurdistan aujourd'hui, c'est qu'il fut théorisé en détail et promu, dès les années 70, mais surtout au début des années 90, par un anarchiste écologiste américain du nom de Murray Bookchin, comme modèle politique de son écologie sociale. Son municipalisme libertaire, comme il l'appelle, faisait de la réalisation d'une confédération de communes libres et autonomes politiquement une politique alternative réellement démocratique, plaçant le pouvoir de décision au sein d'assemblées citoyennes locales, rendant aux citoyens le rôle d'acteur majeur de la vie politique, dans son sens le plus noble. Mais ces idées, peu suivies et largement tombées dans l'oubli, n'avaient guère trouvé d'expérience concrète pour s'exprimer. De Bookchin à Auckland en passant par Bill. Comment les idées de Bookchin ont-elles pu ressurgir subitement au Moyen-Orient? Et comment un tel changement politique et social a-t-il pu se faire dans cette région en si peu de temps? Tout le monde s'est posé ces questions. Pour y répondre, il faut prendre du recul, car le changement a en réalité débuté bien avant la révolution syrienne. Il a commencé par se répandre petit à petit au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan sur une dizaine d'années. Abdullah Öcalan, le leader historique du PKK, est considéré comme l'investigateur de ce tournant. Condamné à l'emprisonnement à vie par le gouvernement turc en 1999, puis placé en réclusion sur l'île prison d'Imrali, Öcalan a lu dans sa cellule la thèse de Murray Bookchin, notamment ses livres « The Ecology of Freedom » 1982 et « Urbanization Without Cities » 1987-1992. Le revirement idéologique commence concrètement en 2001, quand le PKK abandonne la lutte armée puis se dissout officiellement pour former le KADEK, aujourd'hui Kongragel, le Congrès du peuple du Kurdistan. Il adopte alors formellement en 2005 le confédéralisme démocratique, version kurde du municipalisme libertaire de Bookchin. Jeannette Bill, compagne et compagnon de route de Murray Bookchin durant les 15 dernières années de sa vie, récente auteure de sa biographie, a raconté dans une série d'articles en 2011 comment elle a découvert que les idées de Bookchin avaient trouvé un large écho au sein des militantes kurdes. En 2004, une correspondance avait d'ailleurs eu lieu entre Murray Bookchin, Jeannette Bill et Abdullah Öcalan par l'intermédiaire de ses avocats. Bookchin et Bill apprennent alors que Öcalan a fait passer le mot par ses avocats que les Kurdes devaient lire Bookchin. À la suite de cela, un nombre croissant de Kurdes l'ont fait et ont adopté son écologie sociale à un degré très élevé. La pensée de l'écologie sociale, restée en marge du monde militant durant des décennies, aurait trouvé écho au Moyen-Orient, auprès d'un groupe de marxistes repentis. La nouvelle avait de quoi étonner, mais Bookchin lui-même, ancien marxiste-léniniste, reconverti dans l'anarchisme, ne pouvait qu'acquiescer. Cependant, les contacts ne vont guère plus loin. Bookchin, alors âgé de 83 ans, est en mauvaise santé. Ne peut guère conseiller Öcalan. « S'il vous plaît, transmettez à M. Öcalan mes meilleurs vœux, » conclut-il dans sa réponse du 9 mai 2004. « Mon souhait est que les Kurdes puissent un jour être capables d'établir une société libre et rationnelle qui permette à leur éclat de briller à nouveau. » Le décès de l'écologiste américain en 2006 met un terme au contact entre le Vermont de Bookchin et la Turquie d'Öcalan. Entre-temps, Jeannette Bill prend elle-même quelques distances avec son engagement en faveur de l'écologie sociale et de ses idéaux politiques. On en reste là, avec pour l'écologie sociale une phase de marasme certain. Suite à la perte de son mentor, le mouvement vit une crise identitaire. Une de plus après une longue succession de débats acerbes qui l'ont effleuré tout au long des années 90. Et beaucoup enterrent le projet politique du municipalisme libertaire en même temps que Bookchin. L'avenir du Rojava. Si cette résurgence de la pensée politique de Bookchin est importante, elle est aussi à double tranchant. En le mettant en pratique pour la première fois ou presque dans l'histoire contemporaine, il est possible de trouver la fiabilité de son modèle confédéral de démocratie directe. Clairement, l'expérience kurde peut montrer que l'exercice du pouvoir en démocratie directe décentralisée sous la forme d'une confédération est viable et fonctionnel, sans professionnels et sans administration centralisée. Cela pourrait répondre à l'objection majeure qui a toujours été faite par les détracteurs de la démocratie réelle, que le peuple n'est pas capable de gouverner. Le véritable enjeu est là, plus que tout autre débat. La question est de savoir si le peuple kurde, de pair avec l'ensemble des minorités sur place, qu'elles soient arméniennes, yézidis, alévis, juifs ou chrétiennes, peut réussir à faire vivre une politique réellement démocratique et à la maintenir sur une longue période de temps une grande période de temps et à grande échelle. Car sans exemple concret et fonctionnel, l'idéologie communaliste confédérale pourrait bien rester une utopie de papier. Et cela explique pourquoi les écologistes sociaux, Janet Bill, les membres des éditions Nou Kompas et plusieurs autres ont été dès les premières heures en soutien aux Kurdes. A contrario, un échec de cette tentative, que ce soit une récupération étatique et nationaliste, une incapacité à fonctionner en temps réel, le repli vers un système représentatif commun ou des luttes de factions pour le pouvoir serait un rude coup porté à ces idéaux. Ce ne sont pourtant pas les scénarios d'échec les plus probables. Le point crucial est sans doute à chercher à l'extérieur, dans la politique étrangère. Les aléas de la guerre et les convergences d'intérêts stratégiques ont permis aux Kurdes du Rojava de développer leur modèle, sans être tués dans l'œuf par les forces syriennes pro-gouvernementales, sans avoir eu de bâton dans les roues de la part de la communauté internationale, à l'exception notable de la Turquie, qui craint comme la peste une propagation des poussées autonomistes kurdes sur son propre territoire. Mais que se passera-t-il quand le conflit cessera, à l'heure des négociations de paix ou de reddition? Est-ce qu'on laissera aux Kurdes du Rojava développer leur confédéralisme démocratique, ou se feront-ils écraser et mis de côté, voire trahis par leur ancien partenaire de combat, une fois l'État islamique démantelé et la Syrie recomposée? Les USA notamment, partenaires sur le terrain avec leurs frappes aériennes, ont déjà affirmé, par la voix du Premier ministre Joe Biden, de passage en Turquie, qu'ils ne soutiendraient pas la formation d'une zone homogène kurde le long de la frontière turque. On peut donc légitimement douter que la communauté internationale, qui les a tolérés mais guère soutenus jusqu'à là, plaidera en leur faveur. Pour l'instant, le temps joue en faveur des Kurdes. L'enlisement du conflit, s'il est une tragédie humaine indéniable, leur permet jour après jour de développer des bases démocratiques qui pourront leur être utiles dans la gestion de l'après-guerre. À ce moment-là, le scepticisme occidental ne devra plus être de mise. Les Kurdes auront besoin de tout notre soutien, où que nous soyons, pour la reconnaissance de leurs droits. Nous leur souhaitons bonne chance. Le monde les regarde. Vincent Gerber.
Voilà. Alors, la deuxième émission de l'entretexte touche à sa fin. Si ces questions d'autogestion et de prise de parole vous parlent, en fait, ou vous vous sentez concerné, je crois qu'il serait intéressant d'en discuter. Je vois ces extraits comme plutôt des sortes d'input à la réflexion et à une discussion qui, d'après moi, se doit justement d'être menée à plusieurs voix. Donc j'espère peut-être pouvoir mener ça dans la prochaine émission de l'entretexte qui aura lieu donc le 18 mars. Si d'ici là vous avez des autres textes à partager ou des envies, enfin d'en discuter live ou informellement, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez seulement nous écrire à urgent@urgentparadise.ch ou même laisser un mot sur Facebook ou enfin voilà, tout est ouvert et c'est avec grand plaisir que j'en discuterai un peu plus. J'avoue que seul, je trouve que c'est des questions qui font moins sens et c'est pour ça que j'avais plus envie de jouer un peu le reporter ou en tout cas vous partager déjà ces premiers extraits des Hommes du Port et de cet article concernant les questions kurdes de l'indépendance kurde. Alors je vous remercie de votre écoute et à bientôt.